France Inter.
Soyez bienvenus avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin et toute la bande. Aujourd'hui, nous démarrons une semaine de vacances scolaires, donc nous vous offrons une sélection des meilleures émissions.
Et on passe à table aujourd'hui avec la cuisine ouverte du jeune chef que le monde nous envie, c'est Maurice Acco.
Oh, ça sert à rien les chefs, ça donne des conseils que tu peux pas les suivre, ça travaille dans des restos que tu peux pas te payer après. C'est vrai qu'il est beau.
Ouais, c'est vrai, il est beau. Et en plus, ce qu'il fait, c'est bon. Bonjour chef.
Bonjour.
Bienvenue chef, j'ai découvert que vous étiez un grand chef en voyant vos recettes, mais encore plus en vous accueillant dans le studio.
Littéralement.
Oui, absolument, dans tous les sens du terme. Tous nos voeux de bonheur, puisque vous êtes un jeune papa et qui va avoir des nuits encore plus courtes que le chef.
Ça ne va pas arranger le problème.
Inquiète, c'est ça. Vous animez une émission qui s'appelle Cuisine ouverte, on va en parler évidemment tout au long de cette émission jusqu'à midi et demi, mais d'abord un blind test. Vous reconnaissez le titre, vous me dites, vous me donnez votre prénom et vous aurez la parole pour me donner le nom de l'interprète et marquer des points, ce qui est très important, Maury. Très important.
Daniel. C'est toi ?
Oui. Qui chante ça ?
Daniel. Étoile de neige. les mots d'année.
Ouais.
J'ai cru que c'était la Légion.
Ah, ouais.
C'est toi le délai,
je pars en voyage.
J'adore. Ça, une journée de pull moche, on est au top.
Je pense que Maurice se demande où il est. Là vraiment, précisément, j'ai vu un regard de désespoir.
Maurice, on joue avec plus près des étoiles, étoile des neiges. Vous êtes étoilé, donc voilà, chef
il
étoilé, il a le thème, il y a musique avec des étoiles.
Oh, Leïla M.
Oui.
Oh, la belle étoile. Quelques étoiles filantes. Toi, la belle étoile. Autour de toutes ces figurantes.
Attention, plus pointu.
Leïla Muse.
Oui.
Oh, ah ouais. Starlight.
Starlight.
Je maîtrise mieux cet album.
La lumière de l'étoile. Chante ça.
Leïla, Paul Naref ?
Ouais, j'ai l'air Paul Naref.
Maury, non ?
Non.
Vous êtes pas très musique. Pas celle-là.
Les années 2000, peut-être.
Leïla.
Oui.
Etienne Dao.
Oui.
C'est ouverture.
C'est tiré la nuit sur les étoiles.
Ouais.
Avec Vanessa Paradis.
Ah oui, non,
ouais. Qui chante ça ?
Daniel, David Bowie.
Oh oui.
Bravo.
Sur un accord de guitare.
Ah ouais,
ah ouais, la classe.
Starman.
La classe. Alors, je tiens à remercier Julie, Lisa, Maury et Alexis pour leur participation attentive. Pour l'instant,
c'est blindé sans public.
3 points pour Leïla, 3 points pour Daniel. Tout se joue.
J'aime bien pour mon garde jouer.
Là, c'est du...
Attendez, on arrive.
Et là, c'est peut-être du vol.
Leïla Diams ?
Non.
Psychose ?
Non.
Il n'y a plus personne
avec Daniel, Alex.
Je fais des plans sur la météo.
Daniel,
on va
ça. Oui.
Ça s'appelle comme ça, officiellement.
C'est ça a été déposé. Elle a une marque de t-shirt et tout. Victoire de Daniel.
Oui.
Quelle star.
Oh là là.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kadour.
Starman, l'homme étoilé, c'est vous, Maurice Acco. Est-ce que vous vous souvenez précisément de tout ce qui s'est passé quand vous avez appris que vous aviez votre première étoile? Non, mais est-ce que chaque seconde est marquée à vie?
Non, j'étais bourré, je me souviens.
Ah, non, mais si, carrément, j'ai tout en tête. Et non, c'est vrai que c'était un bon
c'était
moment.
C'était où déjà? On l'apprend comment? On l'apprend par téléphone, on l'apprend par mail, on l'apprend par SMS?
Alors moi, c'est passé en deux étapes. J'ai eu un premier appel parce que j'ai eu un trophée de jeune chef de l'année. Et donc, je pensais que je venais chercher ce trophée à la Tour Eiffel. Et à ce moment-là, on m'a annoncé à la remise du trophée que l'étoile Michelin allait de pair avec le trophée.
Quelle journée, donc, c'est classe, à la Tour Eiffel.
Ouais. Alors, juste une question. Elle va toujours de pair avec le trophée de meilleur jeune chef de l'année. Il y a toujours une étoile qui arrive. Ou vous avez eu la double peine et le prix de jeune chef et l'étoile.
Bah, ça va toujours ensemble. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'il remettait ce trophée. Je savais pas, à ce moment-là.
Ok, donc le prochain jeune chef sait qu'il a,
qu'il a
décroché l'étoile en plus. Parfait. Depuis le 27 février 21, c'est ça? Ça fait 3 ans que vous animez cette émission?
C'est ça, 3 ans.
Bientôt 3 ans, en tout cas. L'émission s'appelle Cuisine Ouverte. Elle est tous les samedis à 20h30 sur France 3. Elle porte bien son nom parce que c'est vraiment une cuisine à ciel ouvert où, dans un premier temps, vous vous intéressez aux produits d'une région et vous allez voir les exploitants, vous allez voir les agriculteurs, j'imagine, vous allez voir les paysans, enfin vous êtes vraiment dans les régions, sur le terrain, pour déterminer, non pas là, mais une des spécialités de la région. Dans la prochaine émission d'ailleurs, ce sont les champignons. C'est ça, on va dans des caves, il y a 12 km de gaz, c'est très impressionnant.
Dans des carrières d'asperges là-dedans.
C'est fou.
Un produit, un producteur, une recette, c'est les petits plats dans l'écran, pardon, mais voilà.
Mais non, il n'y a pas que France 2, il y a France 3 aussi.
Oui.
Non mais c'est ça, et à partir de ce produit, en l'occurrence, j'allais dire le champignon, non, les champignons, puisqu'il y en a plusieurs, y compris d'origine japonaise, je ne sais pas s'ils sont...
Oui c'est ça, c'est qu'il y a des souches aussi, ils font des, par exemple, ils faisaient des shiitake dans cette cave, et c'est vrai que c'est... une espèce japonaise de champignons, mais qu'on fait pousser en France.
Qu'on peut faire pousser partout, comme les champignons de Paris ne poussent pas à Paris.
Voilà, exactement.
Ils poussent en Ukraine, principalement, je crois. Il y en a beaucoup qui sont importés des pays de l'Est. Quoi.
Ouais. Les champignons de Paris.
Pologne, Roumanie,
Pologne.
Ouais, beaucoup.
Ah, ok. En tout cas, vous découvrez avec plaisir ces champignons, et immédiatement, un chef, un grand chef de la région, que vous, j'imagine, avez sélectionné, ou dont vous avez entendu parler, vous propose la recette, on va dire, locale de ce produit. Donc vous dégustez ensemble cette recette, et c'est pas spécialement de revisiter la recette de ce chef, mais à partir du même produit, vous dites « moi je vais essayer autre chose, et je te le ferai goûter, et puis c'est tu verras ce que t'en penses, c'est ça ?»
Ouais, c'est vraiment dans cette idée, quoi. Donc les cuisines ouvertes, ils jouent sur l'ouverture, parce qu'on est à l'extérieur, dans très premier degré, mais ils fonctionnent aussi sur l'ouverture d'esprit, où justement en partant d'un produit, d'une recette traditionnelle, on peut l'amener ailleurs, sans la dénaturer, et on peut justement avoir cette ouverture de par le chef, de par l'invité, et de par moi-même, se dire, très bien, j'ai un champignon.
Sauf qu'à partir, à partir d'un même produit, le goût, la dégustation change. Déjà, le mode de cuisson peut totalement changer.
C'est le mode de cuisson, l'inspiration, et
l'assaisonnement.
C'est là aussi, on se dit que l'assaisonnement, que chaque chef amène sa petite touche et son histoire avec un produit local, et ça en fait pas une recette moins locale, justement. Que
Et alors, comment vous déterminez votre petite touche? Quel est votre truc en plus? C'est la world food, c'est de se dire, il y a des influences qui viennent du monde entier, et je m'en sers et je m'appuie là-dessus. Est-ce que c'est au contraire de rester dans l'épure même, en se disant, il faut respecter ce que les anciens avaient imaginé autour de ce produit? Quelle est votre démarche?
La démarche, elle est toujours de parfois prendre le contre-pied, d'autres fois ça va être juste de changer le mode de consommation, quoi. Donc oui, bien sûr, des fois je vais m'amuser à amener un produit et puis aller travailler avec une recette qui vient de continent africain, et justement croiser et se dire qu'est-ce que ça va donner, ou sinon amener juste d'une manière plus ludique, par exemple à Marseille la bouillabaisse, s'amuser à faire un sando japonais, donc un sandwich avec la bouillabaisse. Donc j'ai repris tous les marqueurs de la bouillabaisse et on a mis tout ça dans un sandwich.
Et les marqueurs de la bouillabaisse, c'est les invendus qui sont sur le marché.
C'est ça.
On les fait bouillir à petit feu, bouille à baisse. C'est ça l'étymologie. Comment on en fait un sandwich?
En séparant les poissons.
C'est très liquide, tout ça.
Très liquide. Donc on concentre la sauce, on retravaille justement la rouille. Et finalement, cette sauce, on la met à côté. Ça sert d'un dip pour le sandwich. Et donc on va prendre toutes les matières sèches, on va les mettre dans le pain. Et à côté, on va garder cette bouillabaisse qu'on va réduire et s'en servir comme sauce.
C'est très street food, quoi.
Très street food. Ouais. Et j'ai pu ressortir de Marseille après ça. Ça s'est bien passé, je crois. Ils m'ont laissé partir. Donc,
oui, c'était de nuit. mais c'est bien, vous avez compris qu'il y avait une menace. Quand même, il y a une pression.
J'étais pas serein quand je faisais ça, mais c'est passé.
Cuisine ouverte tous les samedis à 20h30 sur France 3. Maurice Sacco est notre invité jusqu'à 12h30. Elisa Delmoitier n'est pas d'accord du tout avec ça. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Maurice Sacco, Lisa?
Mais c'est quoi ce parcours-là? Maurice Sacco, par où commencer? Vous présentez Cuisine Ouverte sur France 3, vous êtes étoilé au Guide Michelin, vous avez fait la une du Time Magazine, et tout ça après votre participation à Top Chef, où vous avez terminé sixième. Quand on voit votre parcours incroyable, je n'ai qu'une seule question. À quoi ça sert de gagner Top Chef, en fait?
C'est clair.
Si c'est ça qu'il a accompli le sixième, il fait quoi le premier? Il reçoit une étoile, mais une vraie? Il devient chef sur la Lune, c'est ça là? Bon, après, chef sur la Lune, il faut aimer les croissants, quoi. Hein,
mais... Oh, yeah.
Merci. Mais sixième, c'est bien assez. Hein. Quand je vois les candidats suer en finale, je suis là, hey, les gars, cool, cool, cool. Hein. La compétition est finie, regardez Maury, tu sors sixième, t'es une star. Donc, les gens qui donnent tout en finale de Top Chef, c'est comme ceux dont le job est de maquiller les morts. Hein. C'est une question d'unité, j'entends bien, mais enfin, c'est un peu superflu quand même, c'est pas nécessaire.
Non,
Maury, vous êtes une inspiration pour moi parce que gagner Top Chef, je m'en sens pas capable. Mais le perdre, si je m'applique, je crois que je peux y arriver. Vraiment, je pense que c'est une question de volonté, mais je pense qu'il y a moyen. Moi, je suis une énorme fan de la défaite, hein, parce que derrière, ça pousse, vraiment, ça pousse à déplacer des montagnes. Hein. Il faut normaliser la défaite, parce que statistiquement, ça risque de nous arriver. Hein. La défaite, c'est comme l'herpès, vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vais vous dire, pour moi...
C'est bien quand on parle de champignons, c'est le moment
voilà,
de...
Je suis dans le thème.
Bon appétit.
Pour moi, la défaite, c'est pas un échec, c'est un feedback. Hein. Bon, après, ça dépend des défaites, évidemment. Hein. Si tu perds Top Chef, derrière, tu ouvres ton restaurant et on connaît la suite. Mais si tu perds un bras, bon, bah, pas de chocolat, déjà, ni de bras d'honneur. Voilà, à savoir les deux meilleures choses au monde. Moi, ce que je préfère, c'est tremper mon doigt d'honneur dans le Nutella. Oh là, quel plaisir. Et vous non plus, Maury, hein, la défaite ne vous arrête pas. Qu'est-ce que vous déroulez là depuis Top Chef? Chef étoilé, présentateur télé et tous vos projets ont des chouettes concepts. Hein. Dans l'émission Cuisine Ouverte, vous cuisinez dehors.
Oui.
Et c'est vrai, hein, cuisiner avec des murs, ça devenait trop facile. C'est quoi le problème? C'est vrai qu'on est cons, nous, à cuisiner avec nos murs, là, les amateurs. Quoi. N'importe quel grand chef te le dira, hein, pas besoin de murs porteurs pour réussir à pâter en croûte. J'y arrive pas, moi. Je suis nulle en cuisine, c'est terrible. Mais c'est compliqué de réussir sa croûte, non? C'est quoi, hein, la seule croûte dont je suis fière, personne ne le voit. Mmh. Bah, elles sont dans le nez, sous les cheveux, entre les orteils.
Oh, arrête!
Non, mais allez, Maurice, cuisiner dehors, ça, c'est le problème quand t'as déjà tout accompli à 30 ans. Tu commences à t'emmerder, tu sais plus quoi inventer pour te mettre en danger, quoi. Vivement, cuisine sous l'eau, cuisine dans un volcan. Et cuisine vegan pour des rugbymen. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est intéressant. Donc vos restaurants aussi ont des concepts. Hein. Vous avez un restaurant qui mêle cuisine française, africaine et japonaise, un restaurant de comfort food. Et moi, j'ai une énorme passion pour les restaurants à concept. Le plus fou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Twins Garden. Mmh. C'est un restaurant à Moscou où tout le staff en salle est composé de jumeaux identiques.
Mais
donc tu ne sais jamais qui te sert. Imagine, Neila, avant l'apéro, tu vois déjà double. Mais le meilleur concept, c'est Conflict Kitchen, donc cuisine conflit, en Pennsylvanie. C'est un restaurant qui sert que des plats issus de pays en guerre avec les États-Unis. Autant dire que le menu change toutes les semaines. Hein. Bon, au moins,
c'est
ça
vrai
met du... C'est vraiment, ça existe. Bon, moi, ça met du baume au cœur quand tu regardes les infos. Hein. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, ben, je suppose que ce soir, on mange afghan. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les États-Unis s'acharnaient sur le Moyen-Orient, mais je crois que c'est juste parce que c'est là qu'ils font la meilleure bouffe.
C'est clair.
Il faut faire comme les Anglais. Hein. Je peux te dire que quand tes spécialités, c'est la tarte à la viande et le chocolat à la menthe, aucune armée vient de coloniser. Hein. Donc, calmez-vous les Français, hein, parce qu'avec vos chefs prodiges, si les Américains envahissent que les pays où les gens cuisinent bien, ben, avec Maurice Sacco, on n'est pas dans la merde.
Bravo,
merci, Lisa Delmontier. En effet, les restaurants de Maurice Sacco, l'étoilé comme on dit, s'appelle Mosuke, c'est ça, et c'est un mélange entre Mori, votre prénom, et
Yasuke.
Une référence de manga, c'est ça?
C'est une référence historique en fait au Japon, c'est le premier samouraï étranger, et donc le seul samouraï noir connu à ce jour au Japon. Quoi.
Très bien. Mosuke, donc, c'est une étoile au guide Michelin, et il est 11 rue de Raymond, Losserand, dans le 14e arrondissement à Paris. Vous avez deux autres restaurants, plus street food. Ouais. La définition de street food, d'ailleurs, c'est qui se mange debout, qui se mange
avec
dans la rue.
Avec les doigts.
C'est ça. Là, c'est une cuisine, normalement, qu'on peut manger avec les doigts et qu'on peut manger en se déplaçant. C'est une cuisine qui est... cuisine de voyageurs, quoi.
Bon, qui est pas très loin du restaurant étoilé, à quelques mètres à peine de l'autre côté.
Est-ce qu'on peut acheter un sandwich et rentrer le manger dans votre restaurant?
Qui s'appelle Mosugo, mais tout vos restaurants ne s'appellent pas Mo quelque chose, hein, puisque au Galerie Lafayette, Lafayette Gourmet, ça s'appelle...
Non, on a le Mosugo, on en a un dans les Galeries Lafayette.
Qui s'appelle Mosugo aussi?
Ouais, et d'accord. On vient d'ouvrir un nouveau qui s'appelle le Lafayette.
Alors, pourquoi pas Mo Lafayette? C'était ça votre marque, appelez tout
Ouais, ça démarre très bien.
C'est vrai.
Mouillette avec des œufs.
Mouillette, ça marche.
Hein. Concept.
Demandez-nous, on a plein d'idées. Ouais. Bon,
vous ne ferez pas d'argent, mais.
mais vous ferez rire les gens. Pour en revenir donc à vos activités, c'est avoir autant de restaurants et la pression d'avoir un restaurant étoilé et de garder son étoile, voire d'en obtenir d'autres. Comment vous arrivez à jumeler votre rythme de tourner en province, c'est-à-dire de se déplacer, de faire des tournages, pas toujours pratique parce que quand c'est en plein air, il y a du vent et les quelques herbes folles s'envolent au moment.
Tiennent difficilement.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, est-ce que vous déléguez beaucoup? Est-ce que vous...
Bah, quand je suis là, je suis restaurant Mosquée. Le restaurant Mosquée qui est l'étoilé, lui, bah, il ouvre que si je suis là. Donc quand je suis pas là, que je suis en tournage,
le
restaurant est fermé. Ouais, je suis le seul à avoir les clés.
Non, mais c'est super important ça. C'est-à-dire, si le restaurant est ouvert, vous êtes en cuisine.
C'est ça. Je suis en cuisine avec
mes
équipes.
Ce qui n'est quand même pas le cas entre nous, des autres restaurants étoilés.
C'est ça, ce qui n'est pas le cas d'autres restaurants.
Génial.
Et ce qui n'est pas le cas aussi pour moi dans mes autres restaurants, par conséquent.
Mais qui ne sont pas étoilés.
Non,
quand on va dans un restaurant étoilé, quand on a la chance d'y aller, et qu'on apprend que le chef n'est pas là, ou parce qu'il a un restaurant au Japon, à Monaco, à New York,
là on voit le chef à chaque fois.
Là on voit le chef. Et puis je suis là et je passe voir les gens en fin de service. Et puis c'est mon petit plaisir, moi, c'est ce qui me fixe aussi au quotidien. Et d'avoir cette routine de me dire je suis au restaurant, je suis avec mes équipes et on continue à pousser le niveau encore et encore.
Ok, vous mettez une pression d'avoir un minimum de jours par semaine présents dans votre restaurant ou de respecter un rythme pour en repère, de se dire au moins le jeudi, vendredi, samedi, je suis là pour que...
Je suis là tout le temps et ça reste une entreprise, donc il faut quand même...
Il y a des employés à payer,
il y a des charges, donc il faut qu'ils soient ouverts le plus possible. Donc quand je suis là, on est ouvert.
Aujourd'hui, vous y serez ?
Aujourd'hui, j'y serai. Ouais.
Il ne faut pas aller manger entre midi et midi et demi.
J'y vais tout de suite après.
Ça voudrait dire que cette émission est enregistrée, tu veux dire ? Ça veut dire que vous vous interdisez d'avoir un restaurant sur un autre continent ?
Ah non, c'est carrément un objectif. Hein. Moi, je rêve de pouvoir proposer cette cuisine ailleurs. Mais alors, à ce moment-là, quand je suis en voyage, on fermera Mosuka à Paris.
Mais
puis,
donc vous mettez au chômage technique tous les employés parisiens ?
Ouais, mais ils sont contents, ils ont des vacances souvent.
C'est de la récup, parce que
quand ils sont là, par contre, il y a du taf.
Ça veut dire que pour avoir une table chez vous, il faut s'y prendre quand même super tôt, puisque comme vous n'êtes pas là tout le temps et que vous n'ouvrez pas tout le temps.
On anticipe, donc les réservations, nous, chez Mosquée, sont ouvertes 3 mois à l'avance, donc le restaurant est complet 3 mois à l'avance sur 3 mois flottants.
Ah ouais, d'accord.
Les recettes que vous imaginez en province, quand vous les concevez, quand vous découvrez un produit, est-ce que vous créez quelque chose ou vous basez sur... un savoir-faire, une connaissance, une base, entre guillemets, en disant « je vais l'adapter ».
Souvent, je pars d'une base. Là, en plus, ce qui est bien avec les champignons, c'est que c'est un produit. Donc, on n'est pas sur une recette, parce que quand c'est une recette, c'est un peu plus fermé. Par exemple, pour visiter la tomate provençale.
Ou la bouillabaisse.
Ou la bouillabaisse.
On est un peu coincé.
Il y a certains passages obligatoires, ou sinon, on n'est plus dans la recette. Mais sur le produit, quand on est sur un champignon, par exemple, là, on peut vraiment s'amuser, parce que je peux faire ce que je veux avec.
Sauf que tous les champignons ne se ressemblent pas, et n'ont pas la même texture, ni...
C'est ça, ils n'ont pas tous la même texture, donc à ce moment-là... je m'amuse à jouer avec les différentes textures, à jouer avec les différents goûts, et puis comment on le présente. Et c'est justement avoir le côté ludique à chaque fois. Je crois que j'avais fait un bouillon avec les champignons. Je crois que je m'amusais à faire comme un feu, avec pas mal d'herbes et tout.
Et le chef local, c'était plutôt basé sur la noisette grillée. Et tout ça avec un invité. Vous avez reçu du monde, évidemment, depuis le début. Celui qui vous a le plus surpris, c'est Joe Star.
Ouais, Joe Star m'a
surpris ou il vous a fait peur?
Au début, il m'a fait. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais il m'a surpris parce qu'il
s'est surtout, il a tout fait au rhum.
Cuisinier, quoi. Il a tout...
Non, mais c'est vrai.
Il a râlé parce qu'il n'y a pas de rhum, mais.
C'est un grand cuisinier. À quoi ça tient de voir en lui un grand cuisinier, vous dites ça?
C'est qu'il avait tous les bons réflexes, quoi. C'est qu'à la base, je suis parti sur une recette, j'adapte toujours la recette par rapport à l'invité, donc je sais à peu près où je vais aller, mais on voit si l'invité cuisine pas du tout à la maison, ou s'il cuisine un petit peu, on peut faire plus de choses. Et là, vraiment, c'était tomate confite, on a fait un sirop de tomate, un coulis de persil, un coulis d'ail, une purée d'ail, vraiment. Et je lui donnais le truc, 30 secondes après, c'est fait, bon, Maurice, je fais quoi après? Et c'était comme ça toute l'émission, quoi. Donc on a pu faire vraiment une recette comme si j'avais un pro avec moi.
Non, mais il a même sorti un guide bistronomique, Joe Star.
Il aime ça, mais après de là, aimer ça, et en plus savoir-faire.
Non, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout de suite, dès les premiers moments, que ce soit Max Boublil, Julie Depardieu ou Joe Star, vous voyez s'ils ont l'habitude de toucher une casserole et un couteau.
C'est ça. Dès le premier geste, je le vois, je le sens, et après je m'adapte. L'idée, c'est pas de les mettre en difficulté, c'est vraiment de passer un bon moment et de cuisiner une recette et que tout le monde soit content, moi et lui complet.
On va se dire la vérité, c'est vous qui choisissez vos invités ou il y a une programmatrice, un programmateur
qui
vous dit...
Non, il y a une programmation qui est choisie.
Un tel qui est en promo en ce moment, il peut venir, il est libre et on va faire l'émission avec, sans savoir si vous allez vous entendre. Oui. Parce que l'autre problème, c'est de s'entendre avec les invités. Regardez, déjà vous et nous.
On peut faire une grosse recette dehors. Hein.
Non, là où je suis pas d'accord, c'est que est-ce qu'on a besoin d'aimer la personne avec qui on cuisine ?
Alors, pas spécialement, mais la personne qui cuisine avec moi a besoin d'aimer la nourriture. Parce qu'on se rend compte que ça fait toute la différence quand on a quelqu'un qui aime manger, qui est curieux justement de savoir comment on le fait, pourquoi, l'assaisonnement et autres. Et quand on a quelqu'un qui est juste là pour la promo, ce qui est en vrai jamais arrivé parce que les tournages, c'est loin quand on demande à quelqu'un d'aller au fin fond de la Bretagne.
Il y a des gens qui n'aiment pas manger.
Oui, c'est ça, c'est pas vrai.
Il y a des gens qui n'aiment pas manger.
Il y a des gens qui n'aiment pas manger, non, mais généralement, ils n'aiment pas.
C'est quoi votre définition de aimer manger ? C'est manger pour rien ? C'est pas manger pour se nourrir, manger pour le plaisir.
Ouais, manger pour le plaisir, avoir ce plaisir à se mettre à table, en fait. Tout simplement de s'asseoir et se dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger, d'aller d'une manière enjouée et sans arrière-pensée. On peut avoir tous les ingrédients qu'on n'aime pas et bien sûr, c'est normal, mais en tout cas, quand on se met à table, il y a ce plaisir.
Il y a des choses que vous n'aimez pas, vous, que vous ne supportez pas en goût.
Un produit même, carrément. Ouais.
Les huîtres chaudes, vraiment, c'est. Tout le reste, il n'y a pas de problème, mais les huîtres chaudes, c'est vraiment un truc où je ne peux pas.
Pourquoi il y a une mauvaise expérience là, il y a un petit trauma.
Ouais, il y a un jeu de texture, il y a un jeu de température. Non, ça va pas.
Un petit souvenir de Glavio. Mais sinon, est-ce que le. Non, je l'ai pas dit. Mon micro était ouvert, vous voulez dire. Non, je l'ai pas dit.
Est-ce que. Faites pas Fort Boyard. Hein,
est-ce que. Non, ça c'est sûr. Est-ce que le. Il y a des modes. Moi j'ai l'impression. Arrêtez-moi si je me trompe. Et autour de la table.
C'est pas possible. Elle était bien. Elle était facile, elle était bien.
Ah, ça fait du bien.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas aujourd'hui de recette, qu'il n'y a pas de plat sans coriandre. Je vois de la coriandre.
Ah, c'est la mode.
Partout.
Je déteste
on est d'accord
ça.
C'est vrai. Mais c'est très bon.
Je déteste ça.
Ah bon,
je suis partie de l'équipe. Des gens qui ont le gène qui supporte pas la coriandre.
C'est génétique. Non, moi je suis partie de ceux qui adorent ça.
Mais pourquoi la coriandre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une découverte ? Non, mais pourquoi ? Il y en a partout maintenant. Il y en a partout.
Il y a 5 ans, il y avait du yuzu partout.
C'est vrai. J'ai rien contre, mais en effet, quand on va manger avec Leïla, il y a de la coriandre ? Bah oui. Il y en a qui bloquent.
Hein.
Parce qu'il y en a qui bloquent.
Parce qu'il y en a qui bloquent vraiment, ça me rend vraiment pas bien. Quoi.
C'est vrai que c'est génétique.
Ah ouais. Quel est le produit que vous mettez systématiquement, enfin que vous essayez de mettre le plus souvent ? C'est.
Il y en a beaucoup, hein, mais il y a le piment, que je travaille énormément.
D'accord.
À différentes intensités, et la sauce soja où je vais avoir tendance à saler avec la sauce soja. En fait, j'utilise beaucoup moins de sel et beaucoup de sauce soja.
Ce qui est plus sain pour le corps, non ?
Oui, ce qui est plus sain parce que c'est une source de sodium qui est un peu moins agressive.
Et le yuzu, vous en mettez partout, vous aussi, parce que ça a été une mode.
Non,
pareil.
Non, le yuzu, je me l'interdis. Ah
ouais, c'est vrai.
Ouais. Pourquoi ?
Trop vu.
Ah oui.
Ouais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah, du coriandre, trop vu aussi. Hein.
Ouais. C'est bien là, quand
même. Il y a un moment, tu avais du yuzu au yuzu, donc non, c'est la folie. N'importe quoi.
Maurice Akoué, notre invité, je rappelle, Cuisine Ouverte, c'est le samedi 20h30 sur France 3. Voici Mademoiselle Madame.
À quoi tu vois ça ? J'en peux plus des travaux. Écoutez, à l'approche des JO, on dirait que Paris passe entre les mains d'Evelyne Thomas tellement on la relook.
Je te confirme.
Sauf que c'est pas mon choix. Allez, il y en a partout. C'est vrai, dans toutes les rues, tous les grands axes sont coupés. Sans déconner, à ce stade, c'est plus un plan de circulation, c'est une vasectomie. C'est vrai. En ce moment, moi, j'adore le métro. Normal, hein, la grossesse, c'est plus ou moins la classe affaire de la RATP. toujours un siège de libre. À peine j'arrive, bim, les gens s'écartent, la Moïse destrape en train de parler. Mais là, il y a des pièges, il y a des stations fermées, des lignes qui s'arrêtent à des heures tordues. Ce qui mérite une médaille en ces temps de pré-JO, c'est d'être à l'heure à un rendez-vous. Alors moi, j'en peux plus. Alors heureusement, j'ai pu visionner votre film, hein, Karaoké.
Dans le métro ?
Non, pas dans le métro, heureusement, au calme, en rentrant de toute cette péripétie. Ça m'a bien remonté le moral, mais je dois vous avouer que dans la nuit, tout s'est un peu mélangé dans ma tête. Donc mon inconscient m'a offert ça. C'est la fin, le tout dernier matin, où y a que des Parisiens. Sur le boulevard
Saint-Germain. Le premier jour des JO, je vais fuir le Trocadéro.
Ah oui, carrément.
Pour partir pas moins loin que Mexico. Le premier jour des JO, je vais direct louer mon studio. Oui. Je fais pas cher. La nuit à 712 euros. J'adore, j'ai des bêtes de choriste.
Ah oui.
C'est la fin. Pour prendre les transports, faut aimer corps à corps. Les épreuves commencent à Gare du Nord, c'est la fin. Le ticket est à 4 euros depuis qu'ils ont dégagé les craquettes. Les dealers vendent des navigos. Le premier jour des JO, c'était déjà la merde le métro. Mais là, c'est sûr, faudra se mettre au pédalo. Le premier jour des JO, on va tout te foutre sous l'exo. Et puter sur la pauvre Hidalgo. C'est la fin. On voit dans la scène des athlètes par dizaines qui vont gagner non pas des médailles mais la lèpre. Ça rime pas mais c'est horrible. C'est des chiens. On n'a pas les ronds ni d'accréditation. Alors l'idée de voir des épreuves en vrai, bah on peut se la foutre dans le bon.
Non.
Le premier jour des JO, je le suivrai à la radio sur Inter, meilleur radio de France. En noyant mon seum dans le Prosecco.
Mon seum dans le Prosecco.
Premier jour des JO, écoutez Aya, ce sera beau.
Ouais.
De voir la rage sur la gueule des fachos.
La gueule des fachos.
Le premier jour des JO.
Le premier jour des JO. Le premier jour des JO. Le premier jour des JO.
Vous les parisiens,
je sais JO. Le premier jour des JO.
Le premier jour des JO. Et là, on chantera tous ensemble. Le dernier jour des JO. On retrouvera Paris dans le chaos. Et on pleura sur nos impôts locaux.
Sur nos impôts locaux.
Mais le dernier jour des JO. Personne devra rendre le micro. Et on se dira que ce fut quand même beau.
Que ce fut quand même beau.
C'est la fin. Wow.
C'est la bande originale, on se retrouve juste après Bécane de Yamé sur France Inter.
Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre pire, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hontis, c'est que j'acte n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, on me parle pas de pas années, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Rambat assez, j'ai mes CC. J'tourne la poignée, j'frasse le temps. J'roule comme si quelqu'un m'attend. Puis j'cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. J'chante la bécane, di di de de. J'fume la peu. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des paroles en fer. La bécane crie et chante l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'chante la bécane. C'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie et chante l'enfer. Sur un gros fer. La crainte a focalisé. La haine que je ressens, mes pensées. Dans ce business balisé. Chante la bécane. Cali. Connie, Connie, ooh. je me la peux. Chant avec
c'était Bécane de Yamé dans la bande originale de Maurice Sacco qui est notre invité.
Bécane de Yamé, Yamé de Bécane, tu sais pas si on parle du chanteur ou du titre, c'est le brouillard. Hein. Au moins avec Sardou, tu sais où tu vas. Bah oui, c'est clair. Ouais, c'est pas faux.
Maurice Sacco est notre invité.
Oh là 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 là.
Ça, c'est la musique de votre émission, c'est même le jingle de l'émission. Musique composée spécialement pour vous. C'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'avez dirigé cette musique?
Non, je l'ai pas dirigé, mais on l'a choisi.
Influencé, ouais.
Ouais, faite par le fils de Manu Dibango.
Oh, wow.
Donc, super. Donc, assez génial.
Et c'est quoi, c'est une cora qui joue?
Ouais, c'est un mix.
D'accord.
Corail.
Très bien. La musique, justement, on va la retrouver. Est-ce qu'elle compte dans votre vie ou pas? Est-ce qu'on peut cuisiner, écouter de la musique en même temps dans les cuisines de grands chefs? On va en parler avec vous tout à l'heure. C'est Aitor Alfonso, qui est critique gastronomique, qui sera notre invité. Mais d'abord, en 1900, enfin, dans les années 90, pardon, vous écoutiez. C'est...
J'écoute toujours en 2023 d'ailleurs. C'est générique de One Piece.
De One Piece.
Le tout premier, We Are.
Et c'est là que tu vois qu'il y a un vrai problème de génération entre lui et nous. Et bien sûr, One Piece. Voilà, ouais. Voilà. On est dans les années 90. Alors, je sais pas combien de. Il y a combien de tomes de One Piece?
100.
Le manga là.
Beaucoup, hein, je sais même plus. Ouais.
C'est fou.
Ils ont fêté le centième.
Le centième. La millième.
C'est le millième.
Ouais, c'est la millième.
Ah ouais, millième, c'est complètement fou.
Depuis que j'ai l'âge de comprendre ce que je fais, je suis One Piece.
C'est vrai.
Ah, c'est peut-être pour ça, nous on comprend ce qu'on fait.
C'est-à-dire que vous avez lu tous les mangas vous avez...
Non, j'ai pas lu tous les tomes en manga. J'ai dû lire la moitié. Maintenant, je suis en anime maintenant.
Il y en a 1100.
Wow, exactement. Vous êtes en anime maintenant, d'accord. Bah même cette phrase, tu vois. Je
suis
ben voilà,
à la télé, quoi.
Ouais, tout à la télé, sur un écran, à l'ancienne.
Voilà. En animation.
On anime, bien voilà, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est beaucoup de mots, tout d'un coup. Années 90.
Oui, plus court.
Voilà. Gain de temps, gain de place.
Elle est fatiguée.
Bien sûr. Tout ça pour parler, Maurice, de votre enfance en banlieue parisienne. Un enfant fou de foot. Oui. Mais peut-être qu'avant ça, on replace un peu la famille. Vous êtes neuf.
Oui.
Neuf frères et sœurs, vous êtes le sixième.
Tout neuf.
Vous êtes tout neuf. Vous êtes le sixième, Maurice. Vous êtes le sixième. La place dans la fratrie quand on est le sixième, qu'est-ce que ça donne quoi? Est-ce que parce qu'on dit toujours l'aîné, bon bah il essuie les plates, le petit dernier c'est le chouchou. Le sixième, il a quoi d'après vous?
Sixième. Bon, on est bien, il est planqué le sixième.
C'est votre chiffre. Vous avez fait sixième à Top Chef, sixième à famille.
C'est vrai.
Je suis bien sixième.
Avec votre maman est née en Côte d'Ivoire, votre père est malien, c'est ouais. Ça. Et puis il y a eu le Sénégal aussi. Donc voilà, votre maman a grandi en partie au Sénégal avant d'arriver au Mali. Donc il y a aussi, j'imagine, chez vous toute une influence très très précise quand on parle de gastronomie et de culture, de pays très très différents.
De pays très différents et en même temps qui ont une culture commune, donc mm-hmm. en Afrique de l'Ouest. Et moi, c'est cette culture dans laquelle j'ai baigné depuis tout petit, que ça soit la nourriture, que ça soit le vêtement, ou que ça soit même la musique qui m'accompagnait quand j'étais jeune.
C'est quoi le vêtement?
Ma mère, je l'ai toujours vue habillée avec les vêtements traditionnels, mon père aussi, hein, que ce soit en boubou, avec des wax, quand c'était les fêtes et autres, j'ai toujours vécu entouré de ces vêtements-là.
Et vous avez grandi à Tournon-en-Brie, Seine-et-Marne, une petite ville, enfin c'est un peu la campagne, comme
bon,
même.
C'est la dernière porte avant le rien du tout, c'est le terminus du RER E,
ceux
qui connaissent. Et donc c'est après Tournon, c'est la campagne.
Je crois qu'il y va plus, le RER.
Il a arrêté d'y aller.
Et le foot était absolument votre passion, votre vie, quoi. Vraiment.
Ouais, c'est une obsession pour moi, le foot. Hein. Je vivais foot avec mes frères, avec mes potes. C'était foot et les mangas, quoi.
Vous avez essayé d'être joueur pro?
Bon, j'ai joué en foot en club avec mes potes jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Mais bon, il y a un truc qui s'appelle le talent. Et là-dessus, je t'ai pas trop noté, quoi.
Et vous supportiez quel club ? Vous avez des étapes, des phases ?
Ouais, j'ai eu des phases. Alors, culturellement, dans ma famille, tout le monde supportait le PSG. Et je supporte le PSG aujourd'hui. Mais c'est vrai que ma première année où j'ai commencé à suivre le foot...
Il faut les supporter quand on les voit.
il faut suivre. Hein. Mais je suivais le RC Lens ma première année.
Ah, et après, oui, évidemment.
Après, je ne choisissais pas le programme télé, donc c'est toujours le PSG à la télé.
Et
donc,
sans les or, évidemment. Évidemment. En 2009, Maurice Sacco, vous écoutiez Kanye West. Ouais. I drink a goose for breakfast, an inch for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could. Vous écoutiez la musique par réflexe, parce que les potes écoutent aussi telle ou telle musique, pour le plaisir de danser, pour avoir des écouteurs aussi et vous isoler. À quoi vous sert la musique ?
Bah, la musique, à ce moment-là, je passe beaucoup de temps dans les transports quand on habite à Tournambé. Ouais.
Donc c'est le casque vissé sur les oreilles.
Ouais, c'est le casque vissé sur l'oreille et la musique qui m'accompagne finalement dans tous les temps de trajet, donc dans les 2 heures de trajet minimum journalier, quoi.
Pour aller au lycée Antonin Carême. Pour votre BEP cuisine, vous l'obtenez en 2009 et finalement, c'est vrai que quand on revient sur votre enfance, votre mère, elle tenait un restaurant au quotidien, en fait.
Ouais, ma mère, à la maison, c'est elle a dit couvert tous les soirs, hein. Donc c'est un resto, plus les voisins, plus l'invité qui passe comme ça, parce que c'est aussi une petite vie à l'africaine aussi derrière, ouais. C'est que on sait jamais qui va passer, qui sera là ce soir, donc elle prévoit toujours un peu plus, et donc c'est un resto tous les jours.
Tous les jours. Pourquoi avoir intégré cette formation cuisine ? C'était, vous vouliez tout de suite cuisinier depuis le début.
Non, c'est un hasard complet. C'est vraiment.
Parce que vous étiez très bon élève au collège.
Ouais, je travaillais bien au collège et j'avais envie de découvrir un métier.
Ouais.
Et c'est vrai que. Je rentrais pas dans la cuisine quand j'étais jeune, hein. Vraiment, c'était pas.
C'est vrai, c'était le territoire.
Je passais devant, j'allais pour manger, mais j'allais pas pour cuisiner.
Et vous mangez beaucoup ?
Je mangeais pas mal, ouais.
Non, parce que vous êtes plutôt.
Ça se voit pas.
Vous êtes affûté, c'est ça. Ouais, vous êtes
maigre. Parce que j'y pense après, mais à un moment, ça va commencer à se voir. Mais je mangeais beaucoup et j'étais passionné par l'univers de l'hôtellerie.
Ouais.
Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas la cuisine, mais c'est arrivé par une passion pour l'univers des palaces et de l'hôtellerie.
Alors les palaces justement en 2012.
B2O, j'ai envie de mettre un petit peu de Booba.
Parce que il représente quoi pour vous ? Maintenant, il représente plus que simplement un rappeur ou un artiste.
Ça, plus qu'un rappeur ou un artiste, pour moi, je suis partie d'une génération où j'ai grandi en écoutant du Booba et j'en écoute encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un artiste qui m'a toujours accompagné. Donc,
vous le suivez sur les réseaux, vous
Je suis ce qu'il fait. Après, bon, il y a du bon, du moins bon. Hein, là, tout le monde faut trier après. Mais musicalement, il a une longévité dans le milieu du rap qui est assez, qui est assez unique. Il a fait partie du tout début de cette musique. Et aujourd'hui, c'est totalement mainstream et il est toujours là. Quoi,
donc, c'est un boss. C'est-à-dire qu'il a des marques, il décline, c'est ça.
Ça décline, il lance des artistes. Donc il a même pris le relais là-dessus et tout, et je trouve que on peut dire ce qu'on veut sur le rap, mais moi culturellement, pour moi c'est toute une culture qui a grandi et qui a beaucoup évolué aujourd'hui, et on trouve du rap pour tout le monde finalement.
Non, mais moi c'était la gestion du talent. Ce que fait Booba, c'est qu'il gère, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il gère tout autour et sa propre carrière et la carrière des autres, et il décline des marques
c'est
lieux.
Ça, donc il a réussi à devenir plus que ça.
Ouais, mais est-ce que ça vous pousse à avoir cet exemple-là, avoir une marque de fringues, avoir à décliner une marque de resto, non mais pourquoi pas.
Pourquoi pas, mais ce que j'aime, c'est le côté pas de limite, quoi. C'est pas parce qu'on est connu comme rappeur qu'on peut pas être producteur, puis lancer une marque de vêtements.
Mais c'est pas parce qu'on est connu comme chef
de cuisine, voilà. On peut pas un jour sortir de ça et être animateur télé ou faire autre chose, quoi.
C'est ça,
donc,
la preuve.
Ce côté sans limite, moi ça me va.
Et en 2012, on vous retrouve au Royal Monceau, aux côtés de Hans Zanner, qui a un rôle très important dans votre vie.
Ouais, c'est pour moi c'est la personne par qui est venu le déclic. On va dire jusqu'ici j'aimais mon métier, j'aimais la cuisine, mais j'étais toujours plus passionné par les exploits de Karim Benzema ou de Ronaldinho sur le terrain de foot que par ce qui se passait dans les cuisines françaises. Et ce chef, il a vraiment réussi à me focus sur mon métier et à faire que ce métier devienne une passion. Et sans, je pense que si je l'avais pas croisé, peut-être que j'aurais continué à faire ce métier, mais pas avec l'intensité actuelle.
Alors, il y a un autre chef qui a compté, c'est en 2015. En écoutant McFadden et Whitehead, rencontre avec
Thierry Marx. C'est non seulement déjà au Royal Monceau, il y avait le restaurant Nobu, avec la cuisine un peu japonaise contemporaine. Et là, avec Thierry Marx, vous êtes tombé vraiment sur celui qui, aux yeux du grand public, incarne le plus japonais des chefs français.
C'est ça. Et hasard, je l'ai croisé juste en bas, là, en arrivant.
Ah oui.
En arrivant, il allait sur d'autres émissions.
Il va à la cantine. Il sait qu'il faut venir ici pour bien manger.
Et vous prenez comme sous-chef, en fait?
Ouais. Bah, j'arrive là-bas, en fait, je passe 4 ans et demi au total. Et au bout de 2 ans sur place, je monte les strates et j'arrive sous-chef là-bas. Et donc, je passe 2 ans et demi en tant que sous-chef au Mandarin Oriental. Donc, pour moi, c'est une expérience qui compte beaucoup dans la vie parce que je pense que c'est quelqu'un qui a incarné pour moi le changement d'esprit, de passer d'un simple cuisinier qui fait bien son métier à un chef et ce que doit incarner un chef moderne aujourd'hui et la position qu'on doit avoir vis-à-vis de ses équipes aussi.
Il dit de vous que, en fait, vous ne parliez pas beaucoup mais que vous observiez énormément et justement, c'est ce qu'on lui a dit au Japon, observe et tais-toi.
Ouais. C'est une logique, c'est un peu une règle qu'on trouve aussi dans le Bushido, donc dans les lois, un peu le code du samouraï.
Ouais.
Et je trouve que c'est une belle doctrine parce que faut pas attendre qu'on nous donne toutes les informations pour apprendre et progresser, il faut aussi aller les chercher. Et donc,
En termes d'éducation, pardon, il y a aussi observe et pose des questions. C'est violent quand même. Observe,
hein, il faut être courageux de dire à Marc, tais-toi. Tais-toi
et apprends. Mais bien sûr, il y a un moment où on pose des questions. Quand on ne sait pas, il faut demander.
Ouais,
mais il y a aussi toute cette observation qui est nécessaire parce que des fois, il faut aller chercher l'information. Et un geste, ça ne s'apprend pas en une fois. Donc, il faut observer le geste chez celui qui sait le faire et le répéter soi-même. Et par la répétition de ce geste.
Comme dans le foot, comme dans le sport, comme c'est ça.
Le mouvement.
Le mouvement. Aitor Alfonso nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes critique gastronomique pour le guide Le Fooding, Time Out ou Le Figaro 20 également. Vous avez un compte Instagram qui s'appelle Sauce Gribiche, auteur avec Jules de La Fin dans l'Histoire. Bref, votre truc, c'est la cuisine aussi. Comment vous présenteriez Maurice Sacco à quelqu'un qui ne le connaît pas? Vous diriez quoi de lui? Que c'est une success story extrêmement rapide.
Et c'est assez prodigieux. Moi, je dirais que Maurice, c'est même une nouvelle icône contemporaine, quoi. C'est-à-dire que on l'a connu comme cuisinier méticuleux, jovial. Vous voyez, vous l'avez vu sur ce plateau.
Puis on l'a connu mauvais aussi, comme vraiment mauvais.
Pas perdant aussi.
Vraiment, un peu du sixième, quoi. Faut pas non plus.
C'est pas perdu.
C'est le meilleur sixième de l'histoire de Top Chef. Il a connu une ascension éclair.
C'était sur la 6 en plus, donc le 6, c'est son chiffre.
Incroyable. Non, mais quand même, voilà, cette étoile Michelin qui vient super tôt. Il faut dire aussi, je crois qu'il est issu de l'édition de Top Chef la plus marquante de l'histoire de l'émission. 2020, ça a été vraiment des audiences monstrueuses.
Mais c'est le confinement.
Confinement aidant. Ouais. Et vraiment, lui et son acolyte et ami Adrien Cachon, j'ai un peu envie de dire que c'est les vainqueurs moraux de Top Chef 2020. C'est ceux qui ont, je crois, le plus marqué les consciences.
C'est pas pour David Gallienne, hein, c'est celui qui a gagné.
Mais non, mais bien sûr qu'il y a non, mais évidemment, c'est comme dans le cyclisme. Il y a le vainqueur de l'étape, il y a le vainqueur moral de l'étape. Vous voyez le plus. Et ceux qui, je crois, ont le plus marqué leur génération, c'est vraiment Maury et Adrien. Je crois que vraiment Maury a rencontré son époque comme une espèce d'évidence et c'est assez fou à observer.
Est-ce que les chefs sont de plus en plus jeunes grâce à ces émissions de cuisine crochet? Je sais pas comment il faut les appeler.
Ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que à l'époque, autrefois, la cuisine, c'était vraiment une voie de garage des études et de la formation, et que je crois que ça a beaucoup changé, que je crois que c'est un métier qui est en phase d'être valorisé et valorisant beaucoup plus. On peut commencer la cuisine très tôt, hein, je crois que le CAP, c'est 16 ans. Donc effectivement, ça peut aller très vite. Et puis voilà.
C'est une manière de sortir d'une condition sociale et de partir, entre guillemets, d'un savoir-faire, d'observer, de se taire, après de poser des questions.
Alors, ça a longtemps été le cas.
Et de réussir.
Ça a longtemps été le cas. Ouais. Longtemps, ça a été la voie des mauvais élèves, des perdants de l'éducation nationale.
Ouais, mais comme tout ce qui était autour de l'artisanat.
Absolument, c'est-à-dire tous les métiers manuels, ouais, bien sûr. Et puis, c'était sans doute une manière aussi de discipliner discipliner des jeunes gens en les mettant dans un milieu qui était quand même très rigide, voire presque militaire. Hein, une brigade de cuisine, c'est une hiérarchie très, très verticale.
Mais on a l'impression que ce sont, des métiers qui non seulement permettent la réussite, mais sont promis à un très bel avenir parce que ça ne peut pas être remplacé par Internet. La fabrication d'un plat, la fabrication d'une...
Ça ne peut se vivre qu'en présentiel.
D'une chaise, d'une table, le travail du bois ne peut pas être fait par une intelligence artificielle. C'est forcément l'artisanat qui va sortir.
Le restaurant en distanciel, on a vu ce que ça a donné pendant le confinement, il nous a manqué à tous, et on était tous très heureux de revenir en vrai, en présentiel, sur une vraie chaise, à mettre des vraies choses dans sa bouche physiquement, quoi.
Est-ce que ça vient des émissions, encore une fois, comme Top Chef, Master Chef et Truc Chef?
Ça a permis de faire du restaurant une espèce de carrière désirable, et alors après, attention quand même, le cas de Maury est assez exceptionnel. Évidemment, il y a de plus en plus de jeunes en cuisine et qui se mettent au fourneau parfois, qui changent de métier pour devenir cuisinier. Hein. Après, bon, l'exemple de Maury quand même reste un exemple unique. Je veux dire, j'insiste, il est devenu pour moi un cuisinier, bien sûr, encore et toujours, mais aussi une espèce de figure publique. Les plateaux télé, les médias, les institutions se l'arrachent. J'ai envie de dire que c'est un peu Maury à tout prix.
Les réseaux, je dis. Ah oui. Oh yes.
Allez, toi aussi, t'as le droit de faire ça. Tu vois.
Je suis venu pour ça, moi. je vais y aller, merci beaucoup.
C'est tout pour moi, merci Paris. Est-ce que les réseaux sociaux aussi font partie maintenant du quotidien de ces chefs nouvelle génération?
Et ces chefs font partie de notre quotidien à nous. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'ouvrir Instagram quand même pour très souvent voir des chefs cuisiner. Donc en fait, il y a une espèce d'omniprésence du cuisinier au travail qui évidemment le rend très proche, très désirable forcément. Et en fait, j'insiste, une espèce de figure publique. Je sais pas, l'autre jour, j'entendais Christine Endecoune dire qu'il y a de moins en moins de rockstars dans la société, de figures publiques liées à la musique. Peut-être qu'elles sont ailleurs. Et peut-être que la cuisine propose des espèces de modèles de réussite par le travail. Et puis évidemment, avec le cas de Maury, qui est une espèce de cas absolument emblématique, quoi. Voilà. Parce que là, c'est tout à fait singulier, ouais.
Et alors, comment réagissent les anciens? Comment réagissent les critiques gastro? Comment réagissent ceux qui sont
bien, d'abord parce que souvent...
Ancrés dans leur savoir, dans leur histoire.
Quand ils ont un ego pas trop fragile et qu'ils ont le sens de la transmission, je crois que bien...
Ce qui est le cas de Thierry Marx,
mais du fait simplement que ces jeunes talents viennent aussi de chez les anciens, se sont formés chez eux. On parle de Maury chez Marx, on peut parler de Manon Fleury chez Pascal Barbeau ou Chloé Charles également, on peut parler de Mathias Marc qui vient de chez Robuchon. Donc souvent, ça se passe assez bien. Moi, j'anime le festival Omnivore, et sur scène, on a fait une scène où Pascal Barbeau a invité ses anciennes chefs, et ça s'est très bien passé, il en était très heureux et très, très, très honoré, quoi.
L'une des questions que je me pose toujours au niveau des recettes, justement, proposées sur Instagram, proposées dans des livres de recettes, elles ne sont pas déposables. Il n'y a pas d'idées qui appartiennent à un chef.
On ne peut pas déposer une recette. C'est vrai, on ne peut pas déposer une recette.
Non, tant mieux, c'est un véritable manque à gagner pour celui qui crée quelque chose.
Non, parce qu'on est dans un métier où, comme Victor il disait tout de suite, la transmission, en fait, c'est primordial pour nous. C'est qu'est-ce qui va rester une fois qu'on a arrêté notre carrière? C'est ce qu'on a transmis. Et donc, ces recettes, arriver à la postérité, c'est Joël Robuchon avec une purée. Ouais. Il ne l'a pas déposée, mais de fait, elle s'est imposée. Et puis, finalement, cette purée, c'est la purée Robuchon. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est
qu'il y a trop de beurre.
Plus de beurre qu'on oserait remettre si on la faisait soi-même.
C'est une purée de beurre aux pommes de terre. Mais peut-être que ça rejoint aussi la tradition orale de transmission de recettes de cuisine. Okay. C'est de là que ça vient. D'abord, c'est une transmission orale. Et donc, peut-être que ça conserve quelque chose de ça, quoi.
La fin de l'histoire, mais fin F-A-I-M. C'est vrai que dans l'histoire, il y a beaucoup de banquets, à commencer par La Seine, dessinée par Jules, qui illustre ce livre. C'est le volume 1, Une histoire du monde par la gastronomie. C'est publié chez Dargo. Merci Aitor d'être venu dans cette émission. Voici Julie Conti.
J'ai une super nouvelle.
Quoi ?
En France, entre 2010 et 2022, le nombre de vasectomies a été multiplié par 15. Yeah. Bravo les gars, bravo, je vous applaudis dès demain. Non, je vous encense, messieurs, parce que quand un homme se soucie de la contraception, c'est ce qu'il faut faire, apparemment. Oui, mon mec, quand il dit qu'il a fait une vasectomie, il se prend des tonnerres d'applaudissements pour une intervention médicale qui dure 15 minutes, montre en main. Alors que moi, j'ai bouffé des hormones tous les jours pendant 15 ans, et il n'y a jamais personne qui a déclenché une hola pour me féliciter. Pour rappel, la vasectomie, c'est une toute petite intervention sous anesthésie locale qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir de vos gonades mâles. D'accord. Daniel, les gonades mâles, c'est les testicules. Non, le rédacteur chef nous a demandé de dire moins de vulgarité à l'antenne, donc je dis gonades mâles pour éviter de dire burne ou pire couille. Ah non, je suis trop classe, ça. Alors certains blaireaux pourraient me dire, mais pourquoi tu parles de vasectomie? T'es pas un mec, ça te regarde pas. C'est ok, vrai. Mais le Sénat composé à 66% de gars se prononce bien sur le congé menstruel et l'IVG. Ouais. Alors voilà. Pourquoi par mois, hein. Mmh. Et après, je trouve pas très cool le procès d'intention que s'est ramassé Gérard Larcher quand il s'est prononcé sur l'entrée de l'IVG à la Constitution. Moi, je trouve qu'il est légitime à se prononcer sur la grossesse, un rétention d'eau, un bidou du bloc, le contact visuel avec ses pieds, une absence de règles. Il vit avec les symptômes de la grossesse depuis des années, il sait de quoi il parle.
Je ne pense pas que l'IVG soit en danger dans notre pays. Est-ce que je pourrais avoir de la blanquette?
Non. Sans déconner, tu lui colles une perruque frisée à Gérard Larcher, on dirait moi enceinte de 8 mois. Maintenant que t'as cette image, tu sais pourquoi mon mec était hyper motivé à l'idée de faire une vasectomie. La vasectomie est donc une des seules méthodes de contraception masculine validées scientifiquement avec le préservatif. Mmh. Et oui, pour les mecs, pas encore de pilule masculine. Pourtant, ça fait des années qu'ils font des études pour essayer de la trouver. Mais systématiquement, ils les arrêtent quand ils découvrent qu'il y a des effets secondaires chez les hommes qui prennent la pilule. Oh. Et les effets secondaires, hein, chez les femmes qui prennent la pilule, on en parle. Genre le risque accru de développer un cancer du sein ou une thrombose veineuse ou plus bénin, comme l'apparition de l'acné ou la prise de poids. Ces effets-là, on s'en bat les gonades mâles. Vous avez vu, j'ai nouveau réussi à parler.
Bravo, bravo.
Merci. J'ai arrêté la pilule, moi, et ça a été une vraie libération, mais ça n'a rien fait sur mon acné et mes kilos, parce qu'il s'avérait que chez moi, c'était surtout l'effet secondaire de la charcuterie. Et cette augmentation des vasectomies, c'est une belle étape vers une meilleure répartition de la charge contraceptive dans les couples hétéros, et psychologiquement, c'est une sacrée étape, parce que les gars, vous aimez pas qu'on touche à vos burnes. Enfin, si, vous aimez qu'on touche à vos burnes, vous adorez qu'on touche à vos burnes, hein, quand on joue comme ça avec, comme c'était des petites balles anti-stress, mais pas pour la contraception. Non. Et les gars, si vous voulez plus d'enfants, sautez le pas, car la vasectomie peut faire peur. Et certains hommes peuvent faire l'erreur de penser qu'ils seront moins hommes après cette intervention. Mais non, je vous rassure, rien ne change. Après la vasectomie, votre salaire sera toujours 20% plus élevé que celui d'une femme.
Ah, merci, j'ai compris.
Bravo, Gigi.
Vous êtes tellement bien dans la bande originale, mais je vous promets que ce sera encore mieux après les Rita Mitsuko, Ding Ding Dong.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'un côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Mitsuko dans la bande originale, le meilleur de cette bande originale jusqu'à midi et demi.
Ding ding dong, c'est quoi la deuxième chanson de l'album? Pim pam poum, gna gna gna, code code codec. Moi j'en peux plus, hein. Faudra faire preuve d'un petit peu de rigueur.
Justement, quand on parle de grandes manifestations comme celle-là, Maurice Sacco, est-ce qu'un chef rêve aussi de servir une table à l'Elysée, à Versailles, avec les grands de ce monde, ou pourquoi pas l'équipe de France de football, vous qui êtes dingue de foot? Est-ce que ça fait partie aussi d'espèces de buts, de rêves qu'on se fixe?
Pour des sponsors.
Ouais.
Non, mais c'est... Ce qui est sympa quand on est chef cuisinier, c'est que c'est un métier qui nous ouvre plein de portes et que... On est dans un pays où les grandes décisions...
Les portes, il faut les forcer un tout petit peu.
Il faut les forcer un peu, mais les gens sont toujours autour de la table. Les grandes décisions et les grands moments, ouais, se passent à table. Donc, il y a toujours besoin d'un cuisinier pour faire à manger quand on a à table. Et donc, ce qui est sympa, c'est que justement, on peut prendre parti à ces grands moments d'histoire. Et moi, je trouve ça sympa. Et puis, c'est pas un objectif, mais c'est un bonus, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant notre métier, on peut être amené à rencontrer, que ce soit le président de la République ou...
Mais pas dit votre rêve.
Moi, mon rêve.
C'est de servir Mbappé, de servir Emmanuel Macron ou de servir Joe Biden?
Alors, pour M. Macron, ça a déjà été fait.
Oh, Joe Biden.
Excusez-moi, je savais pas. Pardon.
Joe Biden, une bonne soupe.
Soupe et au lit, allez.
Je peux s'endormir avant.
C'est un peu moins intéressant. Mais Kylian Mbappé, quand même, c'est, ça serait cool. Mais ça n'a pas été fait encore.
Ok, très bien. Tanguy Passereau, tu seras là dans la dernière demi-heure avec un sujet aujourd'hui sur.
Je vais vous parler du guide Michelin. Ces absurdes salopards ont encore rétrogradé des chefs qui, en cuisine, donnent tout ce qu'ils donnent. J'en peux plus de ce monde hostile. Les gens sont méchants.
Deuxième partie avec le meilleur de cette bande originale et notre invité du jour, le chef
Maurice Sacco.
T'aimes bien, hein, t'as
moi, j'aime bien.
Tu vois, Nagui, il donnerait la recette de l'omelette parfaite. Je dirais oui, un invité utile, mais là même pas.
Bah si, lui, bien.
Il a pas donné la recette.
Ah oui, c'est trop court. Ouais, donc, j'aurais dû mettre toujours les.
Jingle.
Allez, je mets la totale. C'est juste un jingle en fait. C'est le générique de Cuisine Ouverte, cette émission que vous retrouvez avec Maurice Sacco tous les samedis à 20h30. C'est au moment où vous êtes en train de manger, vous voyez juste un mec faire beaucoup mieux la cuisine que vous et vous expliquer comment faire. Il y a beaucoup d'explications qui sont faites. C'est très pédagogue, hein. Vous voulez que personne ne soit largué à vous écouter. Et j'ai presque l'impression que c'est après avoir tourné l'émission, vous avez dit je suis peut-être allé un peu trop vite en disant ça. Et donc on va l'expliquer au synthé, on va mettre un petit mot quand même pour dire...
C'est ça, c'est
pourquoi
que
fait
beaucoup de choses de manière très naturelle ou des produits pour moi qui sont j'utilise au quotidien, mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent bon, on n'a rien compris en fait.
Non, et des conseils, j'ai encore en tête la réaction de Max Boublil quand il veut cuire avec de l'huile d'olive et que vous réagissez immédiatement en disant non, il faut une huile neutre, comme vous, je crois que c'est comme ça le nom, tournesol par exemple, parce que l'huile d'olive ne supporte pas la haute température.
Ouais, c'est ça. Mais c'est l'idée aussi de ce programme, c'est pas forcément de refaire toute la recette à la maison, parce qu'on n'a pas forcément les produits ou autres, mais ça fonctionne un peu comme une caisse à outils, donc tiens, je prends de la cuisson de la viande, et ainsi de suite, au fur et à mesure, bon bah, on sera plus à l'aise à la maison pour cuisiner au quotidien, quoi, mais c'est vraiment pas l'idée, faut refaire la recette à la maison.
On a parlé des tendances en termes de produits et de la coriandre, est-ce qu'il faut suivre aussi les tendances sur les restrictions alimentaires, manger moins gras, manger moins sucré, manger moins de viande, manger sans gluten, enfin voilà, comment faire quand on est restaurateur pour répondre à toutes ces attentes ?
Bah, faut suivre un peu l'évolution naturelle qu'il y a aussi sur le mode de consommation. Hein. Quand on fait la blanquette, par exemple, bah, une blanquette de veau, maintenant, c'est plus aujourd'hui comme on la faisait il y a 30 ans. Avant, on mettait beaucoup de farine, maintenant, on met plus de farine dans une blanquette, quoi, parce que ça alourdit énormément, ça amène du gluten, et finalement, c'est beaucoup moins digeste.
Ah oui.
Donc, il y a une évolution naturelle qui se fait, faut pas forcer ce changement, mais faut accompagner ce qui doit être fait aujourd'hui. Donc, plus locavore, moins de protéines animales. Ça veut pas dire la bannière, parce que justement, dans ce programme, on va aussi voir des éleveurs de volailles, de viande et autres qui font un super boulot. Et justement, c'est se dire moins, mais mieux. Donc, aller chercher cette très bonne viande.
On peut manger de la viande sans forcément martyriser
l'animal. Sans forcément se manger une côte de bœuf d'1 kg. On peut se prendre 200 grammes de filet, mais très bon, quoi.
À propos de protéines, puisque c'est important pour notre corps, justement, dans votre émission, vous expliquez qu'il y a un champignon qui a autant de protéines que de la viande. Champignon japonais, justement, qui est le plus consommé au monde.
Ouais, le shiitake. Donc, le shiitake, c'est un champignon qui a énormément de protéines, qui est très bon, hein. C'est pas besoin de se forcer pour le manger. Et ça peut être une alternative. Et encore une fois, faut pas que ça soit forcé. Faut que le premier sujet de ce champignon, c'est qu'il soit bon.
Mmh.
Et une fois qu'il est bon, après, derrière, bon, bah, on va chercher les propriétés organoleptiques, mais aussi gustatives et nutritives. Et bah, c'est comme une boucle, quoi. Mais il ne faut pas commencer par le fait qu'il y a autant de protéines que la viande, donc je vais remplacer ma viande par un shiitake. Il faut commencer par le shiitake, c'est super bon, j'ai envie d'en manger.
D'accord.
Et derrière, on développe à partir
les algues aussi, c'est très riche en protéines.
Ouais, les algues, c'est super riche en protéines. Bon, c'est plus compliqué. Tu vois.
On peut mettre en paillettes sur des plats,
ça,
comme ça, un petit peu, pour ajouter.
Le sable aussi, pour... donner du croquant.
On a tourné à Bruissant, il y avait beaucoup de vent, et c'est en vrai, on a mangé avec du sable, et c'était pas super.
Ah bon ? Travaillez-le, peut-être que...
Il y en a plein.
Maurice Sacco, avec ses restaurants... Maurice Sacco, pardon. Avec ses restaurants parisiens, et évidemment avec cette émission sur France 3, à 20h30, le samedi, Cuisine ouverte. Voici Tanguy Pastureau, pardon.
Hier, je suis tombé sur un article du Point intitulé « Voici la liste des restaurants qui perdent des étoiles au guide Michelin ». Et j'ai horreur du guide Michelin, et des remises de prix, et des distinctions. Quand je croise quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur et qui porte sur sa veste sa rosette, j'ai envie de faire pipi dessus. Je peux pas, je suis pas assez grand. Il faudrait que la personne soit allongée ou morte. Mais on fait pas pipi sur un mort. En tout cas, pas avant d'avoir rémunéré la famille. Donc j'explique pour ceux qui vont chez Burger King. Chaque année, le guide Michelin attribue des étoiles et ils doivent en avoir une quantité limitée parce qu'ils en reprennent aussi. Exemple là, le restaurant La Bouite, situé en Savoie, passe de 3 à 2 étoiles. C'est l'établissement des chefs René et Maxime Meilleur qui ont décidé depuis de s'appeler Pas Top. L'auberge du Cheval Blanc dans le Bas-Rhin passe de 2 à 1 étoile et il y en a qui perdent même leur unique étoile, comme le restaurant La Signoria qui est à Calvi en Corse. Alors moi, par précaution des Corses, je leur mettrais 16 étoiles. J'ai pas envie à la sortie du ferry d'avoir regardé 4 fois à gauche et à droite avant de traverser. Enfin, il y a des restaurants supprimés du guide Michelin, comme le sur-mesure de Thierry Marx à Paris, supprimé à la suite du départ de Thierry Marx. À la fin, c'est le client qui cuisait lui-même ses Saint-Jacques à la plancha. Et moi, je trouve ça affreux de rétrograder des établissements, parce que je déteste que les gens soient tristes. Même si je bossais dans les tests ADN et que je réalisais qu'un néo-nazi avait 80% de sang juif, je lui dirais non, c'est bon, c'est du viking. Vous descendez d'un saumon et d'une Crisp Rolls. Et c'est pour ça que j'ai horreur des critiques. Quand un film se fait descendre, ça me donne envie d'aller le voir juste pour dire au réalisateur, je suis là. Ils y passent 2 ans de leur vie. Au final, t'as 4 clampins sur Allociné qui, en 2 paragraphes, te descendent. Mais enfin, personne n'entre chez Promode en criant « Votre collection printemps-été, elle est pourrie. J'ai perdu un quart d'heure à la regarder, bande de chiens. » Un film, c'est un engagement personnel. En plus, on n'a plus le droit de tripoter les gens. Donc, c'est vraiment des gens qui aiment le cinéma, quoi. Avant, ça allait. Il y avait 10 critiques dans les journaux. On pouvait se dire « Bon, ce sont des cons. » Le public, lui-même, si on prenait des drogues avant d'aller à la rencontre des gens, on pouvait maintenir cette illusion. Mais maintenant, avec Internet, tout le monde a son mot à dire. Moi, j'ai sorti un roman, j'ai une note sur Amazon. 3,6 sur 5. Alors, il y a des 5, mais certains mettent 1 juste parce qu'ils ne m'aiment pas. Alors, même que je suis adorable. Je veux dire, je suis une peluche de chaton. Quand je vais à la grande récré, il y a toujours un gosse pour me montrer à sa mère en disant « c'est ça que je veux ». Mais dans les notes, il y a des règlements de compte. J'ai un type qui m'a mis 1 en écrivant « heureusement qu'il y a les copains de France Inter pour mettre 5 ». Mais j'ai pas de copains ici. Ils sont tous soit gauchisants, soit intermittents du spectacle. Mon bouquin, Daniel Morin, il l'a collé dans la bibliothèque de son manoir, entre le petit livre rouge de Mao et tailler sa barbe pour les nuls. En fait, moi, psychologiquement, je suis trop fragile pour être jugé. Voilà, il y a des gens, ils devraient avoir une dispense du psychologue qu'on enverrait au site web, et ils fermeraient l'accès aux notes et aux commentaires. On noterait juste ceux qui savent déjà qu'ils sont super, Jack Lang, Emmanuel Macron, Booba et la coiffure de Nathalie Saint-Cricq. Là, prenez le Michelin. Il y a des chefs qui perdent une étoile et qui tombent en dépression. Ils pleurent au-dessus des plats. Vrai, les clients, ensuite, trouvent ça trop salé. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Tous au restaurant La Bouite en Savoie. René et Maxime Meilleur, c'est un père et son fils. Ils font ça en famille, comme les Souchon ou les Balkany avant. C'est beau. Il faut les soutenir. Leur dire fuck le Michelin. C'est quoi le Michelin? C'est un livre. Ça sert à rien. Les Kardashians, elles ont gagné 3 milliards de dollars sans en lire un seul. Ça va. Disons à Guillaume Canet vieux, il était bien finalement ton Astérix. Qu'est-ce que ça coûte d'être méchant? Vous imaginez Aya Nakamura si elle lit ce qu'on dit sur elle depuis 3 jours, mais elle doit être dans le même état que Jordan Bardella quand à Carrefour Market, il n'y a plus de spray fixant effet mouillé. En fait, on devrait critiquer que les artistes décédés. Voilà, parce qu'ils n'en ont plus rien à faire. Si je dis Maupassant, c'est à chier. Bon, bah éventuellement Théo de Maupassant, un descendant de descendant pourrait lire ça et se fâcher, mais enfin ça va. Alors que si je critique Gims, bah ça va lui faire mal parce qu'il y a un cœur qui bat derrière cet homme qui hurle. Après, attention, il y a des morts qu'il faut respecter. Simone Veil. C'était la Mathilde Panot de l'époque, mais aussi Rosa Parks. Vous vous rendez compte du nombre d'arrêts de bus qu'elle a raté juste par principe, pour ne pas céder sa place à un blanc. Et la malheureuse a fait 4 fois le tour complet de la ligne. Elle a passé la nuit au dépôt de bus. Tout ça pour des principes. Bon. Et même les remises de prix, ça me gêne. Les victoires de la musique, quand il y a 4 nommés à l'image, chacun dans un carré de l'écran. Ouais. Ensuite, il y a un seul nom qui sort et on voit les 3 autres faire comme s'ils trouvaient ça bien. Moi, les dernières victoires, à un moment, mais j'aurais fait un croche-pied à Zao de Sagazan. J'aurais couru vers la scène, j'aurais dit ça va, elle en a déjà eu 11. Cyril Ferraud, tu lâches ce prix, tu me le donnes ce prix. Ça veut dire quoi cette manière de faire comme si une œuvre était mieux que les autres? Moi, il y a des boules et billes qui m'ont plus plu que le Goncourt. Si j'étais Leïla Kaddour, qui est dans le jury du prix littéraire de la Closerie des Lilas, mais je voterais pour tout le monde. Je me ferais virer, mais avec autant d'amour en soi, dans les 2 heures, il y a Jean-Pierre Foucault chez vous qui vient vous remettre une écharpe de Nice. En scout, comme Uber Eats. Rappelons d'ailleurs que vous n'êtes pas obligé de noter 2 sur 5 ce livreur. Non, il ne sourit pas. Il gagne 400 balles par mois. Donc arrêtons de nous juger et aimez-moi. Merci.
On se retrouve juste après Olivia Dean et The Hardest Part.
up to meet you. Static on the phone. Normally I need you. This time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started?
Sparte d'Olivia Dean, c'est dans la bande originale sur Inter. Maurice Sacco est notre invité, je le rappelle, cuisine ouverte. Quand on mange, il y a souvent à côté des vins qui accompagnent. Ça aussi, c'est très tendance d'avoir un vin différent par plat.
Et... l'accord, on va dire, avec les mets, les vins, c'est très français parce que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ils boivent pas autant qu'en France. Donc, ils ont moins cette tradition d'accompagner un
plat. Ils boivent de la bière au pub. Mais donc, pour être un bon chef, il faut s'y connaître aussi en vin et pas que pour déglacer.
Faut y penser. Il y a beaucoup de chefs qui ne boivent pas ou qui ne se connaissent pas énormément. Moi, je ne fais pas partie de ces chefs justement qui ont une grosse connaissance en vin justement, mais je suis très curieux. Donc j'apprends en posant des questions cette fois-ci.
Je dirais ça la prochaine fois. Je suis pas ivrogne.
J'apprends beaucoup. c'est vrai qu'il faut y penser parce que ça fait partie de l'expérience quand on accueille dans un restaurant. Maintenant, plus que faire à manger, on pense des expériences. Et il y a l'assiette, bien sûr, il y a le service, mais aussi le vin et le liquide qui l'accompagne.
Tous les samedis, 20h30 sur France 3, Maurice Sacco avec sa cuisine ouverte, d'autres événements culturels, Leïla.
On va écouter, si vous le voulez bien, un son. Vous avez reconnu absolument Miley Cyrus. Pourquoi ce son, d'après vous, en cette fin d'année?
Numéro 1 de l'année. Ouais.
Voilà, c'est le titre le plus streamé.
Ah oui, mais c'est un énorme tube. Ça.
Le titre le plus streamé de l'année.
Et le plus repris aussi.
2023.
I can buy you flowers.
Je peux m'acheter des fleurs à moi-même.
Tu l'as pas entendu? Tu l'as pas entendu, ça?
Bon, tu sais, sur Nostalgie, parce que... C'est dommage.
Il est sur Voyage.
Mais tellement.
Est-ce qu'il y a un titre comme ça, Maurice, si on regardait votre Spotify, votre Deezer, je ne sais pas quelle appli, quel est le titre qui revient en tête? C'est le grand jeu du moment, c'est de publier son récapitulatif.
Je ne l'ai pas fait encore, mon récap.
Ouais. Et d'après vous, qu'est-ce qui arrive en tête dans vos écoutes sur votre téléphone ou sur vos outils?
Alors, ça dépend. Je suis quand même revenu pas mal sur des vieux classiques, là, sur du Tupac.
Tupac?
Ouais, je sais pas pourquoi, cette année, je suis revenu en arrière.
Et les fondamentaux.
Ouais, j'ai beaucoup écouté Tupac avec Ned Dogg, c'était All About You, je crois.
Ouais, d'accord.
Si j'ai pas de conneries.
Donc ça peut être en tête de votre écoute.
Ouais, je crois que je l'ai beaucoup écouté cet été.
Vous écoutez de la musique en faisant la cuisine?
À la maison, oui. Mais au restaurant, non, j'ai besoin de calme pour bosser.
Ici, en tout cas, c'est Miley Cyrus qui gagne la palme mondiale. Une femme, tout ça, pour en arriver à une autre femme, parce qu'on parle toujours des chefs, on parle de leur capacité à faire plaisir, à créer de nouvelles choses, mais je connais rarement un chef qui ne soit pas bien accompagné.
Ouais.
Et c'est votre cas aussi. C'est votre femme.
Ouais, c'est ma femme et plus que accompagnée.
Émilie,
qui plus que les derrière grand homme, les femmes et tout. Non, on est vraiment partenaires, on est côte à côte et on développe tout ce que je fais aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle vous apporte et en quoi elle c'est quoi ça, sa pierre à l'édifice à elle?
La structure, elle m'apporte beaucoup de structure. Finalement, moi, j'ai un profil de créatif, donc voilà, je vais beaucoup au feeling. Et j'aime aller sur des nouvelles choses et j'y vais comme ça d'instinct.
C'est une façon de dire qu'elle vous surveille, ouais.
Ouais, elle me surveille, elle me contrôle,
elle canalise.
Mais elle canalise et elle rationalise tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis chef de cuisine, mais je suis aussi et surtout chef d'entreprise.
En tout cas, vous avez tout construit ensemble.
Ouais, on a tout construit ensemble depuis les premières visites de lieu, aux premières rencontres avec des banquiers, elle a toujours été là. Et on a toujours monté ça en binôme, et j'ai toujours été la caution professionnelle et du restaurant, elle a toujours été la caution administrative, financière du groupe. Quoi.
Autre question, est-ce que vous connaissez le sleeve face?
J'ai eu peur.
Le quoi?
Qu'est-ce que c'est ça? Le sleeve face. C'est une tendance très en vogue sur les réseaux sociaux qui permet de découvrir ou redécouvrir d'ailleurs des artistes. D'après
c'est
vous,
pas de se mettre des pochettes de disques devant la tête.
Absolument, Tanguy. Absolument, c'est visuel. Ça se fait avec des vinyles. Voilà. Tu prends la pochette, tu la mets devant ton visage et tu te prends en photo. L'illusion peut être marrante quand elle est bien réalisée. On peut faire ça aussi.
Toutes les pochettes sont
pas
des gros.
On peut faire ça avec la plaquette des Rolling Stones. Non,
voilà. Il faut des gros plans. Absolument. Il faut. Alors ça peut marcher.
Faut être bourré surtout. Bon.
Il faut. On peut faire ça avec des couvertures de magazines. Ouais. Et on peut faire ça. Alors même si sur la couverture du Times, Maury, c'était pas un gros plan à ce point-là, mais j'aimerais parler quand même de cette couverture. Vous avez pris la suite de Kylian Mbappé, il n'y a pas beaucoup de Français, je crois que vous êtes 2-3 Français à avoir fait la une du Times Magazine.
Oui, c'était assez fou et une belle surprise, on va dire.
Du Time, pardon, oui.
Je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc, ça arrivait comme ça. Bonjour, Maury.
Bonjour, Maury.
On va mettre dans le classement, ok, simple, super. Et vous allez faire la coupe? Ah bon?
Mais, et ça apporte quelque chose?
Ouais, ça apporte une visibilité à l'international.
Ça veut dire que quoi, il y a eu plus de touristes étrangers qui sont venus dans le restaurant. Enfin,
ouais, plus une clientèle américaine qui est arrivée aussi dans les différents restaurants que j'ai, qui se posait des questions.
La vraie question, c'est pourquoi vous êtes remarqué et remarquable. Et j'imagine que quand on arrive dans un restaurant, on demande quoi, un plat signature, on dit quel est votre truc, qu'est-ce qui fait que vous êtes remarqué par les autres?
C'est cette cuisine aussi, et puis c'est aussi peut-être une vision sur le monde où justement c'est une cuisine où on s'amuse à croiser plusieurs continents, où moi je prône bien sûr un échange culturel à travers la cuisine mais aussi au quotidien. Aux États-Unis ça fait du bien aussi de voir cette vision du monde en ce moment. Quoi.
Et cette couverture justement, je me suis dit mais quand on doit faire la une de Time, comment on s'habille, comment on se prépare, comment... Je vous vois, vous avez l'air très coquet, très beau là avec un sorte de dégradé de rose, chemise rose, gilet un peu plus foncé, un vieux rose poudré un peu, pour faire la couverture du Time, comment on cogite longtemps?
Là, on contrôle rien, c'est les Américains, il y a un styliste et j'ai le droit de choisir parmi les tenues du styliste, mais ça va, c'était plutôt sympa ce qu'il avait.
Un costume blanc, c'est ça?
Un costume bleu.
Ouais, c'était un costume bleu qui était assez joli.
Bleu clair. Oui.
Ouais, j'ai fait la page 7 de TéléZ, il n'y a eu aucun impact. J'ai rencontré le chef.
Alors?
Je l'ai promené un peu autour du local.
Est-ce que l'élégance dont parle Leïla se joue aussi sur la cuisine, c'est-à-dire on sait que le premier déclic de l'appétit, c'est l'œil, c'est l'esthétique, c'est la présentation, mais on ne parle pas souvent de l'assiette, des couverts, des verres, de l'art de la table, comme on dit. Ça, c'est important, la déco?
Ah oui, ça, c'est hyper important maintenant. On est en France, déjà, il y a une grande tradition de cet art de la table et c'est un savoir... faire et un savoir-vivre qui est assez important. Et c'est vrai que c'est tout aussi primordial finalement que ce qu'on a dans l'assiette, parce que ça nous conditionne à ce qu'on va manger. Donc
rien que le fait d'avoir des vraies serviettes,
Maurice, je suis désolé, je vais vous clasher. Je vais vous clasher. À la fin de l'émission, vous mangez avec Thomas, le chef. Tous les trois, vous dégustez. Les trois serviettes restent pliées sur la table. Aucun n'a mis sa serviette. Et ça, c'est pas un bel exemple pour notre jeunesse française.
Oui,
c'est une honte.
Vous avez fait comme tout le monde. Vous êtes essuyé avec la nappe, comme tout le monde.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Des excuses à présenter, Daniel.
Des excuses, bien sûr, les amis. Désolé pour les villes de Gretz, Amandvilliers, Favières, Presles-Embry ou Châtres, les petites bourgades limitrophes de Tournan, qui ont été méprisées, tambourinées par M. Maurice Sacco. Des bourgades qu'il a qualifiées de bled de campagne arriérée. Bravo, la grosse tête. Et alors, bon, en même temps, à la pause, j'ai regardé les photos. C'est d'une laideur. Désolé pour tous ceux qui trouvent que le chef Maury va trop loin avec son sandwich bouillabaisse. Il trouve que c'est n'importe quoi. Alors vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après le sandwich bouillabaisse, le chef Maury travaille sur un panini au potage et une crêpe à la soupe. C'est bon, mais il paraît que tu sors de table dégueulasse. Tout le contraire de ce qui va se passer demain dans cette émission avec le délicieux Vianney. Une émission qui sera de bon goût. Une émission dans la transmission, dans le partage, à deux ou à trois. Finalement, ce sera peut-être aussi un peu dégueulasse.
Coquin. Maurice Sacco, c'est à la télé, oui, avec...
Sur quelle chaîne?
Sur la 3, je crois, à 20h30, le samedi.
La meilleure chaîne.
Cuisine ouverte, mais il y a aussi une série de documentaires que vous avez tourné, j'imagine, déjà au Japon, c'est ça? Il y a 6 épisodes.
Ouais,
c'est mon 6, c'est votre chiffre. Hein. Il y a un moment, il va falloir...
C'est dingue, ça.
Sans déconner.
Vous le faites exprès,
il y a des séries comme ça.
Non.
Il me l'a fait remarquer à l'instant. Hein. On a l'étoile Michelin après 6 semaines d'ouverture aussi. Chez
c'est vrai ouais. Ah non, mais mec, il y a un chiffre porte-bonheur.
Ouais. Laisse tomber. On l'école en 6e, ça.
Ah ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est pas ça.
Pour Noël, je vais vous offrir un maillot du RC Lens de Floquet numéro 6.
Non, un jeu à gratter, là, tu sais. Non. Un numéro fétiche. J'adore gratter les jeux.
Attends, on fasse des jeux.
Qu'est-ce que vous racontez dans le doc?
Dans le doc, c'est une découverte et une visite. C'est vraiment la première fois. J'y avais jamais mis les pieds.
Et vous avez découvert un produit?
La coriandre.
Non, mais ils connaissent pas la coriandre là-bas, donc ben c'est voilà. Bien.
Tu vois,
est-ce que c'est moins moche qu'au Tournan ou pas?
Oh, ok. Donc, le restaurant.
C'est magnifique, le centre-ville de Tournan.
Mosuke.
Faites pas semblant, ça n'existe plus.
Le restaurant Mosuke, c'est une étoile au guide Michelin. Il est situé 11 rue Raymond Losserand dans le 14e arrondissement de Paris. Sur le trottoir d'en face, il y a Mosuke au 22, mais cette fois-ci plus street food. Il y a également les Galeries Lafayette gourmet. Il y a déjà un projet d'un autre restaurant à venir?
Pour l'instant, non.
Qui va bien dans la salle. Très bien. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Oh. Merci Leïla.
Merci
Daniel. Merci à toute la bande. On se retrouve demain?
Oui, même endroit, même heure, avec une femme qui ne porte plus la robe. Humoriste et ancienne avocate Caroline Vigneault. Y a-t-il un auteur dans l'avion?
Avocate, humoriste, la fille, elle sait pas ce qu'elle veut. C'est sûr qu'elle veut venir là, pas sur RTL?
C'est sûr. Passez une belle journée sur RTL. Ouais. À demain.